18-20.
Avec cette édition spéciale du Téléphone sonne jusqu'à 20h sur le nouveau gouvernement dont la composition a été annoncée en milieu d'après-midi. C'est une équipe charpentée d'hommes et de femmes politiques de premier plan, issus pour certains de la gauche, pour d'autres de la droite. Des personnalités connues et reconnues à d'autres postes comme Hulot à l'environnement, Blanquer à l'éducation, Nissen à la culture, Majoubi pour le secrétariat d'État au numérique. L'orientation européenne est également très forte. Alors qu'en pensez-vous, amis auditeurs? Impression, sentiment, analyse, questions sur ce nouveau gouvernement? On est ensemble jusqu'à 20h. 01 45 24 7000.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Et j'accueille Louis qui nous appelle du Gard. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Vous ouvrez ce téléphone sonne, nous vous écoutons.
Mais tout d'abord, je vous remercie de me recevoir, de prendre mon appel. Les émissions de France Inter en général sont toujours excellentes, donc y participer, c'est une grande satisfaction. Moi, je suis dans la libération. Je me suis retrouvé avant Macron, avant l'élection, avant les 20 heures de la dernière du dernier scrutin. Je me suis retrouvé dans un malaise difficile, personnel, quasiment dans la tristesse, une espèce de crainte aussi, une peur importante de ce qui se passe et de ce qui se passait dans l'ambiance. J'habite dans le Gard, je suis dans une région où le FN est quand même très très bien placé, malheureusement.
Et là, vous êtes content. Générale. Vous êtes content, vous êtes satisfait.
Et oui, je suis libéré. Moi, les 20 heures, c'était le coup du réveil. C'est la sonnerie de joie, de bonheur et de confiance. Je crois qu'on peut jouer là-dessus. On a un gouvernement sur lequel on peut vraiment faire confiance et qui nous montre des personnalités qui sont en avant, vraiment, qui sont, j'allais dire en marche, c'est drôle, mais qui sont vraiment en avant, je pense.
C'est quoi, c'est le fait qu'il y ait une palette transpartisane qui
oui,
vous contente?
Oui, bien sûr, ben, ça fait depuis ma petite enfance que j'attends ça, et je crois que je ne suis pas le seul. Les Français, d'une façon générale, en ont marre de passer de droite à de gauche, comme un bibendum qu'on balade, quoi. Mmh. Là, il nous faut quelque chose, une ligne, comme De Gaulle avait mis en place. Il nous faut une vraie ligne qui nous emmène, qui nous entraîne, qui nous fasse voir aussi, qui nous éclaire. Je crois que l'idée de l'ordonnance est une bonne idée si elle est mise en place intelligemment. Mmh. Et je fais confiance à ce gouvernement d'une façon générale. Madame Nissen est une très grande dame des lettres. Elle assiste, elle accompagne des gens, des artistes, moi-même on se sent concerné forcément. Une grande athlète, une grande sportive qui a fait ses preuves par ailleurs, nous réjouit forcément.
Et voilà,
gauche ou droite d'ailleurs.
Et voilà, Louis, un auditeur heureux, satisfait, pour reprendre votre terme. Merci d'être intervenu dans le téléphone sonne pour vous répondre et dialoguer avec vous. Une équipe subtilement composée de journalistes de premier plan et de différents profils issus de la science politique à Paris et en région. Frédéric Savicky, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, en duplex de France Bleu, des studios de France Bleu Nord à Lille. Rémi Lefebvre, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Professeur de sciences politiques à l'université de Lille 2, Thomas Legrand, bonsoir.
Bonsoir.
Éditorialiste politique à France Inter et Marion Lourd,
bonsoir.
Chef adjointe du service économie et sociale à Inter. Qui veut répondre à la satisfaction, Thomas, de Louis? Voilà, un gouvernement arc-en-ciel.
C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui, depuis longtemps, c'est quelque chose qu'on entend depuis longtemps, beaucoup de gens se disent, et si on prenait les meilleurs à droite, les meilleurs à gauche, les meilleurs dans la société civile, les meilleurs dans leur métier, le meilleur médecin à la santé, le meilleur, etc., pour en faire l'équipe de France, en fait. Mmh. Et donc, c'est vrai que ça peut être réjouissant. Après, je voudrais pas doucher un petit peu votre enthousiasme, ça va peut-être marcher, mais évidemment, se pose la question, est-ce que c'est arc-en-ciel pour faire beau pour les législatives, et est-ce qu'il peut y avoir une cohérence? Quand Nicolas Hulot est là, est-ce que c'est pour appliquer son programme à lui ou celui d'Emmanuel Macron? C'est pas le même. Est-ce que Bruno Le Maire est là pour appliquer son programme à lui ou celui d'Emmanuel Macron? C'est pas le même. Peut-être que c'est une histoire de compromis, mais il faudrait qu'on sache lequel. Donc là, voir. Pour l'instant, On va voir, et ce qui va être très intéressant, c'est écouter demain matin, il y a le Premier ministre est invité, on va lui poser des tas de questions là-dessus.
Marion Lourd.
Je voudrais tempérer le côté on change de droite à gauche systématiquement, en tout cas pour ce qui concerne l'économie, parce qu'à l'économie, on a une administration qui est très forte, qui est l'administration de Bercy, et à chaque nouveau ministre de l'économie et des finances, elle présente le même classeur, avec le même constat et les mêmes préconisations, qu'il soit de droite ou de gauche, et elles sont généralement suivies. Alors après, c'est une question de degré, mais sur la droite et la gauche, finalement, sur l'économie, la différence n'est pas si énorme que ça, encore moins entre Emmanuel Macron et par exemple un Bruno Le Maire, et donc la cohérence est au rendez-vous, si j'ose dire.
Les programmes ne sont pas tout à fait les mêmes.
Oui. C'est une différence de degré plus que de nature.
Oui. Mais là, il y a une photo, je ne veux pas ramener les choses à un trombinoscope ou à la photo.
La photo est belle.
Voilà, c'est une photo aussi que commentait notre auditeur en disant, bon, il y a un certain nombre de gens de bonne volonté, c'est le gouvernement aussi, des gens qui, comme vous le disiez Thomas, de gauche ou de droite, vont travailler ensemble. Frédéric Savicki, ça vous évoque quelle analyse, quel commentaire ?
Bon, écoutez, non mais il s'agit pas de lancer des fleurs ou pas, mais il s'agit quand même de, on pourrait dire, de redescendre quand même un peu sur terre. Alors quand on redescend sur terre, il y a une première chose, c'est que ce gouvernement, il a d'abord comme vocation à gagner les législatives, donc d'où son côté très quatrième république, c'est-à-dire on va prendre trois modems, deux radicaux de gauche, deux anciens poids lourds du gouvernement sortant. Trois républicains au profil bien typé. Bon, il y a d'abord ça. Hein. Alors c'est pas un mal en soi. Ça s'explique aussi par la logique de la situation. Et derrière, il y a autre chose dans ce gouvernement en même temps. Moi, ce que j'y vois, c'est effectivement sur certains dossiers chers au président de la République, l'éducation nationale avec la nomination de Jean-Michel Blanquer, le social, la politique sociale avec le projet quand même de réforme des retraites et puis du code du travail qui est confié, on pourrait dire là aussi, à une technicienne, à quelqu'un qui connaît bien les dossiers on a déjà dans ce gouvernement la préparation de l'après avec on pourrait dire des profils plus de compétences, donc il y a ce mélange des deux qui se retrouve là. Alors évidemment, la question qui se pose, il y a au milieu de tout ça Nicolas Hulot qui est quand même, on pourrait dire,
numéro 2,
gouvernement.
Alors, d'État,
est-ce que c'est l'arbre qui
reviendra sur ce que ça veut dire?
On va y revenir. Il y a des questions.
Est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt, ou est-ce que c'est, faut dire, quelque chose qui est essentiellement destiné à élargir la majorité, ou est-ce que il est là pour longtemps et avec de vraies prérogatives? Pour le moment, il y a des signes qui vont plutôt dans le sens de la durée, parce qu'il se voit confier quand même un gros ministère avec une administration. Vous n'êtes rien si vous êtes ministre et si vous n'avez pas des administrations capables derrière de vous obéir et d'agir. Alors, il faudra regarder de ce point de vue-là très attentivement la composition des cabinets. Est-ce que Nicolas Hulot et quelques autres ont la latitude de composer leur cabinet à leur guise, ou est-ce qu'ils se feront imposer par le président et le premier ministre des gens?
Après, il est venu avec beaucoup de gens, lui.
Voilà, donc là, il y a effectivement quelque chose d'intéressant qui se dessine et qui est en rupture avec quand même ce qui était l'orientation programmatique du président de la République.
Rémi Lefebvre, votre commentaire sur la photo, ensuite la parole aux auditeurs d'Inter sur de très nombreux aspects de ce gouvernement.
Oui, alors pour revenir à Louis se sent soulagé parce qu'il a l'impression que ce système partisan corseté est en train de se déverrouiller. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette photographie gouvernementale, qui est d'abord un effet d'affichage, c'est que c'est un gouvernement des compétences. Quand on regarde outre le quota professionnel de la politique, le profil des gens de la société civile, ce qui est très marquant, c'est que ce sont tous des experts de leur domaine. Ce sont des experts, et finalement, là, c'est cohérent, la stratégie de Macron, c'est une stratégie de dépolitisation de la vie politique, et donc pour la dépolitiser, eh bien, on confie le pouvoir à des gens qui sont spécialistes de leurs questions, ce qui est la meilleure manière de techniciser les choses. D'un point de vue sociologique, c'est assez fascinant, parce qu'on nous a beaucoup dit que c'était le renouvellement de la société civile, mais c'est vraiment un gouvernement de dominants, c'est-à-dire que ce n'est vraiment pas la société française qui est représentée dans ce gouvernement, c'est une partie aujourd'hui des dominants économiques, sociaux, sociaux universitaires. Et il y a vraiment, voilà, un capital, si vous voulez, social, universitaire, institutionnel dans ce gouvernement qui est très très impressionnant. Alors, est-ce que c'est donc c'est un gouvernement qui ne voulait, qui ne se voulait pas forcément représentatif socialement de la société, mais bien d'un gouvernement des compétences, des autorités dans une stratégie de dépolitisation de la vie politique.
Marion Lourd, et puis on part au standard.
Je voudrais juste apporter une petite nuance. C'est effectivement un gouvernement des compétences, sauf peut-être à Bercy. Alors Gérald Darmanin a eu plein de fonctions et il est certainement compétent sur plein de domaines. Il n'est pas connu pour sa spécialité dans les comptes et les finances publiques. Donc là, clairement, l'idée d'exploser la droite, il me semble qu'elle est plus présente.
Il n'est pas connu pour être un fervent de fermer les robinets. C'est étonnant.
On retourne au standard. Isabelle, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci d'accepter mes remarques. La plupart des intervenants ont répondu aux observations que je vais représenter. Vous-même, en préambule, avez dit ce gouvernement bien charpenté. Eh bien voilà, c'est un gouvernement bien charpenté avec des personnes connues, avec l'équilibre promis. Les promesses sont tenues, c'est pas souvent, civil, mixité, etc. Et on a pris des personnes qui sont censées assurer tout bien le job.
Mmh. Alors, où est le problème, est-ce Isabelle
que... Eh bien, la question est, est-ce que les personnes qui se sont penchées avec grande attention en nous faisant un petit peu mariner ont bien envisagé que dans très peu de temps, il y a des législatives? Elles ne seront pas forcément en faveur des personnes actuelles. Mmh. Il y aura peut-être des barrages, il y aura peut-être la nécessité de recomposer. Donc, en ayant composé, présenté une image aussi léchée d'un gouvernement aussi attrayant, c'est quand même pas les ministres qui font les législatives, c'est les gens qui se présentent sur le terrain pour être députés. Faut pas tout mélanger, je crois. Mmh.
Et donc, vous auriez préféré un gouvernement de transition?
Oh, non, moi, j'aurais rien préféré.
Non, mais je vous pose la question, je vous pose la question, Isabelle.
Justement, vos collaborateurs et la charmante jeune femme m'a demandé si j'étais contente ou pas. J'ai dit, très honnêtement, je m'en contrefous.
Mais c'est un sentiment comme un autre, hein.
Non, mais j'observe. Je suis à l'âge où les jolis enthousiasmes que je peux entendre me font sourire, pourraient me plaire et me faire du baume au cœur, mais je n'y crois plus. J'ai passé l'âge. Mm-hmm. Le Père Noël, c'est dans 6 mois ou c'était il y a 6 mois, c'est comme on
est-ce
veut.
Que charpenter, le mot que j'ai employé, vous a semblé enthousiaste?
Non, non.
Ah bah voilà, bah merci.
Non, dans l'observation, comme moi j'avais dit, j'avais employé bien structuré, respectant et tout. Et donc, en présentant quelque chose d'une image aussi belle, aussi lisse, aussi complète, aussi conforme, qu'est-ce qu'il va être si les législatives cassent le jouet? Et on n'aura plus du tout de personnes aussi valables à présenter, aussi solides, aussi compétentes, enfin, compétentes,
oui,
entre
oui.
guillemets, je ne les connais pas tous, je ne peux pas me prononcer,
oui, mais que se passera-t-il, effectivement, si...
Et en définitive, en brûlant tous les vaisseaux dans, comme vous avez employé le terme, la possibilité d'un gouvernement transitoire, qui aurait peut-être été moins fort, mais gardant un peu sous le pied... est-ce qu'on...
Oui, bien compris, Isabelle.
C'est l'appartement témoin, en fait.
Thomas Legrand appelle ça l'appartement témoin, Isabelle. Restez en ligne.
Il faut savoir que les législatives, c'est effectivement, Isabelle, vous avez raison, le moment où les rapports de force vont s'établir. Si la droite gagnait les législatives, ce gouvernement sauterait, il y aurait un gouvernement de cohabitation. Si la gauche les gagnait, ce gouvernement sauterait, il y aurait un gouvernement de cohabitation. Et c'est un gouvernement, là, qui peut tenir si En Marche a soit la majorité absolue, soit une majorité relative, pouvant, d'ailleurs il est composé comme ça, pouvant s'appuyer parfois pour certaines lois sur quelques députés de gauche. Déjà beaucoup de futurs députés de gauche potentiels ont dit qu'ils voteraient la confiance, qu'ils voteraient avec les députés En Marche. Beaucoup de députés de droite ont dit qu'ils voteraient la confiance d'Édouard Philippe, qui est des leurs. Donc c'est un gouvernement pour les législatives Et il ne faut pas oublier que le Premier ministre, selon notre Constitution, est le chef de la majorité. Et donc, c'est celui qui mène la campagne législative. Ça va être très intéressant, d'ailleurs, de voir Édouard Philippe sur les mêmes tribunes que quelques anciens ministres socialistes à des meetings. Donc, c'est, en fait, c'est pour dire aux gens, si vous votez En Marche, vous aurez... Vous aimez bien ce gouvernement ? Bah, si vous aimez bien ce gouvernement, votez En Marche. Voilà ce que veut dire ce gouvernement. Si vous n'aimez pas ce gouvernement, votez à droite ou votez à gauche.
Frédéric Savicky ?
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un gouvernement qui est en grande partie un produit de communication à destination des électeurs pour législatives
et qui a vocation à rester après.
Alors, ça c'est ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est-à-dire que bon, on peut jamais exclure effectivement.
Si Bruno Le Maire se présente aux législatives et qu'il perd, voilà. Est-ce que selon la tradition gaulliste et il est gaulliste, il démissionnera ou pas? Je pense que oui.
Mais comment dire majorité secret derrière
la majorité pour l'instant, la majorité du présidentiel n'existe pas. C'est-à-dire que elle va se constituer après législative et notamment en fonction de ce qui se passera entre les deux tours de législative, parce qu'il va y avoir forcément la présence de candidats du Front National dans beaucoup de circonscriptions. La question va se poser de savoir s'il y a un appel à se désister, donc il y aura des négociations à ce moment-là, et donc on peut penser quand même que malgré tout ce gouvernement sera possiblement réajusté pour éventuellement tenir compte de cette majorité. Bon, mais ça c'est normal. Ça s'est passé par le passé. François Mitterrand en 80, il nomme un gouvernement où il n'y a que des socialistes. Et après les élections législatives, il intègre des communistes qui n'y étaient pas. Et donc il y a un changement qui s'opère et ça se fait tout à fait naturellement. Par contre, pointer un petit peu, engager la conversation avec votre auditrice. Il y a 22 ministres là qui sont nommés. C'est pas forcément, il y a pas la crème de la crème. Il y a plein de gens qui auraient pu y être avec des profils assez similaires qui n'y sont pas. Et donc, il faut pas non plus considérer que s'il y avait d'autres personnes qui seraient amenées à les remplacer, ce serait la fin du monde ou que cette charpente tomberait sur la tête. Il y avait beaucoup de noms qui circulaient. D'ailleurs, certains dont on peut s'étonner qu'ils ne soient pas là parce qu'ils auraient pu apporter aussi d'autres choses. Par exemple, il y a pas de syndicalistes. Dans cette liste,
La difficulté de nommer un syndicaliste.
Il y avait Nicole Nota qui
sûr,
est quand même
ancienne de la CFDT,
qui était quand même très. Alors évidemment, quand on nomme un syndicaliste,
ça veut dire se braquer avec les autres syndicats.
Ah oui, mais enfin, c'est déjà largement le cas. Donc,
la ministre du travail, elle est respectée par tous les syndicats.
Mais bon,
Il
y avait quand même. Aussi, on peut noter quand même que bon, de même hier, notre président du MEDEF avait encouragé le Premier ministre à faire appel à des gens qui connaissent l'entreprise. Finalement, quand on regarde, il y en a quelques-uns, bien sûr, mais c'est pas non plus le raz-de-marée de chefs d'entreprise tels que certains pensaient le trouver, ce qu'on trouve beaucoup plus, par exemple, quand on regarde les candidats aux législatives au titre d'En Marche.
Rémi Lefebvre à Lille, sur la question d'Isabelle, notre auditrice.
Oui, je crois que notre auditrice, elle pointe un peu une particularité de notre système politique. C'est quand même assez curieux. On a vécu des semaines de campagne présidentielle. Il y a eu deux tours, un vainqueur. Et puis finalement, on a encore des élections législatives. Un président de la République qui nomme un gouvernement qui finalement n'a pas de pouvoir et qui attend qu'on lui donne à nouveau le pouvoir sur la base de cet argument de campagne qu'est le gouvernement. Donc là, vraiment, ce gouvernement a été ciselé. Alors, je sais pas s'il est charpenté, mais en tout cas, c'est un gouvernement attrapé. Tout, qui vise en fait à maximiser les chances d'élection aux élections législatives, parce que c'est le principal atout dont dispose Macron pour pouvoir avoir les moyens politiques de mener sa politique. Et donc, effectivement, on sent que ce gouvernement a été sous-pesé. C'est un pari, et donc on va voir si ce pari marche. Je salue quand même l'exploit, parce que d'un point de vue politique, c'est quand même un attelage assez improbable et assez incroyable, d'avoir dans le même gouvernement Gérald Darmanin, François Bayrou, des radicaux, le maire de Lyon, etc., puis plein de membres de la société civile. C'est quand même un gouvernement, à mon avis, assez sans précédent dans l'histoire de la
République. Le spectre idéologique et politique, il est maximal. Ça va du sarkozisme à Nicolas Hulot. Marion Lourd, et puis on repart au standard.
J'ai envie de dire, le gouvernement, il est peut-être de transition à un double titre, même si, comme disait Thomas, il a vocation à être prolongé après, parce qu'il y a encore cette question de la transparence et des des vérifications supplémentaires que va devoir faire la haute autorité. Et sur certains ministres, en tout cas dans mon domaine, c'est-à-dire celui de l'économie et du social, Muriel Pénicaud, on se rappelle l'histoire de Business France, vous savez, cette soirée organisée à Las Vegas où il y a une enquête pour savoir s'il y a eu un appel d'offres sur cette soirée qui avait été organisée à Las Vegas avec Emmanuel Macron. Donc là, l'enquête, elle est encore en cours. Peut-être qu'on va avoir une réponse dans ce délai-là, je ne sais pas. Il y a l'histoire de Bruno Le Maire également, avec sa femme qui avait été assistante parlementaire. Alors, est-ce qu'il y a des vérifications supplémentaires à effectuer également? Je ne sais pas. Et Elisabeth Borne, qui est au transport. Pour la petite histoire, j'ai appelé Transparency hier, l'association, qui m'a cité comme exemple du conflit d'intérêts un patron du transport qui deviendrait ministre des Transports. De C'était l'exemple typique. Et elle était effectivement patronne de la RATP. Donc, est-ce que, pour le coup, c'est un conflit d'intérêts? Ça reste peut-être à déterminer également.
Maude, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez de la belle ville de Lille. Où se trouve l'un de nos invités?
Oui, j'ai entendu. En fait, j'ai deux questions. Ça va dans le sens, en fait, de ce que vous venez d'expliquer. D'abord, est-ce que c'est possible que la nomination de Nicolas Hulot soit en fait un véritable coup de communication de la part de Macron pour en fait grappiller des voix aux insoumis, écologistes et amonistes lors des législatives? Parce que bon, au vu des autres ministres et surtout du Premier ministre, il serait presque impossible pour Nicolas Hulot de mener à bien la transition écologique comme il le souhaite. Et comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de conflits d'intérêts dans les ministères et il serait possible qu'un ministère prenne le dessus par rapport à celui de la transition écologique.
Merci beaucoup Maude pour cette question. Frédéric Savicki, Thomas Legrand, Marion Laure, Rémi Lefebvre.
Écoutez, je pense que elle a raison, vous avez raison de pointer évidemment le coup de communication. En même temps, c'est précisément parce que le ralliement de Nicolas Hulot est une forte transgression que Nicolas Hulot et ses proches ont été en position de négocier beaucoup en échange de ce ralliement. Donc, à court terme, c'est une opération de communication. À moyen terme et à long terme, c'est incontestablement un engagement que prend le président de la République et le Premier ministre à engager un certain nombre de réformes qui n'étaient pas forcément effectivement annoncées dans le programme présidentiel. Alors maintenant, évidemment, ça veut dire que Nicolas Hulot va avoir une arme très puissante, c'est qu'à la première occasion, il peut menacer de démissionner ou de démissionner pour dénoncer le fait que l'accord n'est pas tenu. Et évidemment, même si ça intervient après les législatives, ça peut évidemment affaiblir considérablement...
Voilà, le coup de com' devient un coup de
voilà,
canon.
Voilà, donc c'est un coup de com', mais c'est aussi un engagement politique qui lie les mains du gouvernement.
Marion Lourd.
Il y a une véritable question sur l'objectif de la transition, de la loi de transition écologique, qui est de descendre à 50% d'énergie venue du nucléaire à horizon 2022. Or, Emmanuel Macron a déjà dit que pour lui, cet objectif était impossible à respecter, en fait. Donc, est-ce que Nicolas Hulot a obtenu des garanties là-dessus? Je ne sais pas. Et le risque de la présence de Nicolas Hulot, c'est d'avoir une forme de schizophrénie, comme il existait déjà sous Hollande, et ce que regrettaient certains grands patrons de l'énergie, d'avoir d'un côté le ministère de l'économie qui, lui, veut du nucléaire, veut de l'énergie pas chère, et de l'autre côté, le ministre de l'écologie qui dit stop, il faut fermer Fessenheim, il faut faire moins de nucléaire. Il y avait une vraie schizophrénie là-dessus. Les patrons de l'énergie n'aimaient pas ça. Et est-ce que ça va
là, il a les deux dans l'escarcelle.
Oui. Alors, on peut quand même imaginer que Bercy va avoir son mot à dire via l'agence des participations de l'État, qui est présente notamment chez EDF. Donc voilà, il va y avoir
mais
une influence.
Mais on peut dire aussi, je pense que Nicolas Hulot, qui n'a jamais été ministre alors qu'on a dû le lui proposer 50 fois, avec un rang de ministre d'État, pas nécessairement tombé de la première pluie, qui doit connaître. Non, publique.
On sait que ça négocie autour de Nicolas Hulot. Depuis quelques jours, quelques semaines, Mathieu Orphelin, qui est En Marche, qui fait partie de En Marche, est un de ses proches. Pascal Canfin, ancien ministre, est aussi à la manœuvre avec Danny Cohn-Bendit. Ça négocie vraiment. Et Nicolas Hulot a toujours refusé des tas d'offres, même très mirifiques, parce qu'il a toujours craint justement cet aspect d'affichage. Alors peut-être que dans un coin de la tête de Emmanuel Macron, ce n'est que de l'affichage, on ne sait pas, on n'est pas dans sa tête, mais en tout cas, il a obtenu quelque chose qui est important, qui est qu'il est ministre d'État. Ministre d'État, c'est pas simplement un titre honorifique. Un ministre d'État, par exemple, le Conseil des ministres peut, c'est très codifié, hein, peut prendre la parole sur tous les sujets. Un ministre, tout simplement, ne prend la parole que sur ses sujets. Un secrétaire d'État ne vient au Conseil des ministres que quand un de ses sujets est à l'ordre du jour. Et le ministre d'État, on lui reconnaît en tant que ministre d'État un poids politique. Il fait partie, comme si c'était une coalition. Vous voyez, il représente l'écologie. Les deux ministres de droite ne sont pas ministres d'État. Alors, il y a un premier ministre qui est de droite, donc ça suffit. Et puis, en plus, ils ont les ministères, ils ont les clés de... Ils ont les cordons de la bourse. Donc, on peut imaginer quand même qu'il a eu quelques garanties. Simplement, on pourrait se poser la même question sur les ministres très contradictoires avec l'écologie, c'est-à-dire les deux ministres de droite chargés de l'économie. Ils ont aussi eu des garanties. Il y a un moment, il va falloir qu'Emmanuel Macron tranche dans ces garanties et en trahisse l'un ou l'autre, à moins qu'il y ait un compromis, encore une fois, un compromis, des compromis. Et là, il faut qu'on sache quels sont ces compromis. On ne sait pas.
Rémi Lefebvre à Lille.
Oui, juste ajouter, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, deux petits points. D'abord, effectivement, Nicolas Hulot, c'est une belle prise, mais c'est pas forcément très étonnant, parce que Nicolas Hulot, depuis 3 élections présidentielles, il est quand même dans une logique de vouloir peser sur les choix. Ouais. Il y a eu son fameux pacte innégocié. Donc là, bon, finalement, il trouve la configuration idéologique peut-être la plus favorable pour lui, puisqu'il s'est quand même jamais beaucoup marqué à gauche, pour peser sur les événements. C'est peut-être une bombe à retardement, en tout cas, je suis d'accord,
Mélenchon
pour le gouvernement. Oui, mais en même temps, il a quand même une image quand même un peu transpartisane. Oui, et puis le deuxième point, c'est justement par rapport à l'électorat qui est visé à travers Nicolas Hulot. Je pense pas que ça soit du tout les insoumis. C'est plutôt cet électorat écologiste plutôt centriste, voire de droite, qui est réel, qui est authentifié dans les enquêtes, qui est assez minoritaire dans le spectre de l'écologie, mais qui a un électorat macrono-compatible. Et donc, très clairement, alors qu'on reprochait à Macron d'être pas assez écologisé, Nicolas Hulot, outre l'impact médiatique, c'est une manière de s'adresser à cet électorat qui pourra abonder le vote aux élections législatives.
Claude, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci. Je suis très intimidée à intervenir devant des gens aussi éminents.
Non, vous êtes chez vous, Claude, vous inquiétez pas.
Alors... d'accord, ce gouvernement ne prétend pas être représentatif socialement. D'accord sur des compétences en mode ENA ou Sciences Po. Et d'accord, c'est pas la crème de la crème. Mais s'il n'y a pas de chef d'entreprise, il y a quand même des jolis profils de dirigeants. Et vous faisiez vous-même remarquer qu'il n'y a pas de syndicalistes, même pas Madame Nota qui était dans les starting blocks. Alors, il me semble, vous allez peut-être m'éclairer, que c'est un gouvernement d'une certaine élite, de sachants, qui vont gouverner plutôt le bon peuple, en tirant bien entendu les rênes à gauche. Et puis d'autre part, tout ce qui est applaudi par M. Gattaz doit être suspect pour les salariés, les artisans, les professions libérales. Dites-moi que je me trompe, s'il vous plaît.
Bah écoutez, on va soumettre ça. Bah, je renvoie la balle à Rémi Lefebvre à Lille, puisque vous aviez déjà commencé à explorer cet aspect des choses.
Bah écoutez, oui, gouvernement des sachants, moi ça me va assez bien. Alors après, on pourrait nous dire, on pourrait objecter, finalement on est passé d'une légitimité par le suffrage universel, auquel croyait beaucoup François Hollande, qui était celle du système politique traditionnel. Au fond, on est ministre pas forcément parce qu'on est spécialiste, on est ministre parce qu'on est membre d'un parti, parce que ça s'inscrit dans une carrière politique, mais on a une dimension politique. Est-ce que pour être ministre, il faut être spécialiste de la question dont on a la charge? C'est une question, j'allais dire, politique qu'on peut posé. C'est-à-dire que... Or là, Macron a tranché. La légitimité ministérielle pour Macron, alors là, évidemment, je parle plutôt du quota société civile, parce qu'effectivement, sur les postes ministériels donnés au profil professionnel de la politique, là, la logique de spécialité n'est pas forcément dominante. Mais sur le quota société civile, elle est dominante. Elle est dominante et effectivement, on a des spécialistes Alors, c'est une bonne chose et je pense que beaucoup d'auditeurs qui écoutent France Inter doit se dire, bah oui, mais la politique, c'est savoir de quoi on parle, etc. Oui, mais j'alerte sur l'idée que la politique, ce n'est pas l'expertise, parce que sinon les ministères à des technocrates.
Oui, on va essayer voilà, de rétablir. On va essayer. Rémi Lefebvre, on a des petites. Rémi Lefebvre, s'il vous plaît, on a des petits soucis de liaison avec Lille. On va rétablir ça. La parole tourne ici. Thomas,
on peut,
Marion,
on peut effectivement constater qu'il y a une sorte de dépolitisation de ce gouvernement. Mais à partir du moment où on dit qu'on nomme des gens de la société civile, on peut pas leur demander de ne pas être en plus pas compétents dans leur domaine. S'ils ne sont pas politisés et qu'en plus ils ne sont pas compétents dans leur domaine, alors autant les nommer au hasard. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est dépolitisé à partir du moment où il y a eu une élection présidentielle avec un programme fort qui a été validé? Alors on peut après contester en disant qu'il a été élu par défaut, ce qui est vrai. Donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça que les législatives sont importantes et toutes nos analyses sont quand même suspendues aux législatives. Donc on peut considérer qu'à partir du moment où un programme a été choisi, eh bien le président et le premier ministre, qui sont deux politiques, le premier ministre aussi, décident de prendre les meilleurs pour appliquer ce programme. Donc c'est pas non plus de la dépolitisation totale, puisqu'il faut bien appliquer un programme choisi. C'est pas simplement un programme de technocrate.
Marion Lourd.
L'écueil du gouvernement de Sachant, c'est un Sachant qui ne sait pas se faire écouter forcément au niveau politique parce qu'il n'a pas les appuis, parce qu'il n'a pas les réseaux. Alors, on a vu ça à un moment à Bercy avec, par exemple, Francis Maire ou Thierry Breton aussi, qui avait parfois quelques difficultés à se faire entendre. Christine Lagarde a vraiment décollé quand il y a eu la crise économique mondiale, mais au début, pareil, elle était un peu moquée. Donc, ça peut être un écueil. Après, je rebondis sur l'histoire de se méfier de tout ce qu'applaudit le MEDEF, que disait notre auditrice. Le MEDEF a c'est vrai, saluer notamment la nomination de Muriel Pénicaud, qui est l'ancienne patronne de Business France et qui vient du monde de l'entreprise. Force ouvrière aussi. Après, bon, la CGT prépare déjà une grève, donc l'accueil est mitigé, mais tous les syndicats ne semblent pas non plus opposés à cette nomination en particulier.
Frédéric Savicky.
Moi, je crois qu'il faut se méfier avec la notion de société civile. Dans les années 80 et 90, quand on faisait référence à cette notion, on en renvoyait plutôt à des gens qui avaient des expériences associatives, voire des expériences syndicales. Et c'était quand même très différent de gens qui avaient des profils soit d'entrepreneurs, de gens qui avaient travaillé dans le milieu économique, ou également de technocrates. Dans ce gouvernement, quand on regarde finalement le détail des gens de la société civile, alors sans doute Laura Flessel, à sa façon, pourrait s'incarner. Sinon, quand on regarde dans le détail des parcours biographiques, y compris de ceux qui n'ont pas de mandat électif, qui ne sont pas des élus, on s'aperçoit quand même que c'est des gens qui ont une expérience politique en cabinet ministériel, dans l'administration, dans des entreprises publiques, etc. Donc il faut faire attention à cette espèce de produit de communication consistant à dire c'est pas des bon.
Et sur, puis sur et votre, puis les postes, sur votre définition juste de la société civile, Nicolas Hulot il y a quelques mois, quelques semaines pendant la campagne avait lancé avec un très grand nombre d'associations d'ONG, le fameux appel des solidarités dont on avait parlé ici à France Inter. Lui est plutôt aujourd'hui, à travers sa fondation et ses dernières initiatives, dans un profil de société civile
c'est
première manière.
Incontestablement, avec quand même la particularité qu'il a été candidat aux primaires des Verts en 2012 et que là, il avait déjà quand même passé le cap d'un engagement politique. Mais lui correspond sans doute peut-être le plus à ça. Et puis, deuxième chose quand même, c'est que quand on regarde les postes clés, les gros ministères, les ministres d'État dont on parlait tout à l'heure, là on voit quand même qu'on a des gens à la fois âgés et très expérimentés. Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, 69 ans. François Bayrou, 65 ans, ministre d'État, garde des Sceaux. Il y a quand même Sylvie Goulard qui est ministre des Armées mais qui est députée européenne, énarque. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, 69 ans, élu cumulant et depuis très longtemps. Bruno Le Maire à l'économie. Donc, je dirais, pour ce qui est des affaires sérieuses et stratégiques, là, on a les poids lourds, des gens qui vont savoir aller devant les parlementaires pour défendre, qui vont être capables d'aller dans les médias aussi ou sur les estrades pour défendre les programmes. Donc là, il y a quand même effectivement...
Mais Nicolas Hulot, je ne veux pas y revenir, il est quand même deuxième dans l'ordre protocolaire. Derrière Gérard Collomb,
il faut regarder
c'est l'arbre qui cache la forêt.
L'intitulé de son ministère, qu'il a négocié aussi, d'après ce que je sais, et donc à la transition, il est ministre de la transition écologique et solidaire. Et il était très attaché, il a fait toute la campagne présidentielle sans soutenir aucun candidat, mais vous l'avez dit, avec des associatifs, avec une tendance, une tonalité très à gauche quand même.
On est en ligne avec Gilles, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Vous nous appelez de Martinique, bienvenue.
Bonsoir à tous. Moi, j'avais deux questions très brèves, mais bon, vous avez déjà plus ou moins répondu. Moi, la première question, c'était, bon, finalement, est-ce qu'on peut considérer globalement qu'on a un gouvernement de droite? Et deuxièmement, est-ce que des gens, justement, des personnes comme Nicolas Hulot, et celles sont là juste pour comme des petits pions avant les sacrifices, évidemment.
Merci Gilles pour cette double question. Peut-on considérer qu'on a un gouvernement de droite, point d'interrogation, Thomas Legrand?
Eh bien, si on prend le Premier ministre et les ministres chargés de l'économie, effectivement, on a un gouvernement de droite. Parce que, en fait, si vous mettez des gens de droite au ministère de la Défense ou des Affaires étrangères, et si vous mettez des gens de gauche au ministère de la Défense ou des Affaires étrangères, c'est la même chose. En France, le régalien de droite ou de gauche, quand c'est PS et quand c'est LR, c'est à peu près pareil. Donc là, il faut pas mesurer droite ou gauche au nombre de ministres.
C'est à Bercy que ça se joue.
C'est à Bercy que ça se joue. Et à Bercy, il y a deux ministres de droite.
Et à Matignon aussi, enfin,
mais il y a effectivement Nicolas Hulot, et il faut voir comment
tout ça s'équilibre. Marion Lourd,
je dirais effectivement sur le plan économique, purement économique, c'est un gouvernement économiquement de droite. Après, tout est question de degré, c'est-à-dire que si on regarde le programme du candidat Fillon, il voulait supprimer 500 000 fonctionnaires. Là, c'est plutôt 120 000 fonctionnaires. Sur la sécurité sociale, Fillon voulait faire 40 milliards d'économies. Là, il va falloir en faire plutôt 15 milliards. Donc, tout est question de nuance et de degré, mais en tout cas, on est dans le respect des objectifs européens de réduction du déficit et de la dette et donc et dans quelque chose de pro-européen, mondialiste, etc.
Rémi Lefebvre, avons-nous un gouvernement de droite ?
Mais écoutez, j'ai regardé un petit peu ce qu'on nous annonce en termes de calendrier législatif dans les mois qui viennent. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que l'agenda aujourd'hui gouvernemental, il est très marqué à droite dans les mois qui viennent. La seule mesure qu'on peut rattacher à la gauche, c'est sur l'école avec les classes de 12 élèves dans les zones prioritaires. Mais globalement, c'est une question évidemment d'intensité. Ce programme de Macron, il est quand même certes moins libéral que celui de Fillon, mais il est très clairement, à mon sens, libéral, sur la fonction publique, le coût du travail, la fiscalité. Voilà. Donc, je ne suis pas, moi, très étonné qu'effectivement, les positions économiques soient données à des représentants de la droite, puisqu'il y a de réelles convergences, me semble-t-il, dans le diagnostic économique entre Macron et, en gros, les jupéistes, et même au-delà des jupéistes à droite.
Thomas Lefebvre, un mot, puis Frédéric Savicky.
Thomas Legrand.
Excusez-moi. J'ai bugué. Ça m'arrive.
Thomas Le Maire.
La droite, ces derniers temps, a fait beaucoup. Campagne, non pas tellement sur les questions économiques, mais sur les questions identitaires, les questions sociétales, les questions aussi d'éducation. Et là, sur toutes ces questions, en revanche, on est plutôt à gauche, disons libéral au sens anglo-saxon du terme, sur les questions l'éducation, mais aussi le rapport aux migrants, aux réfugiés, ou même aux libertés publiques, où là, la balance penche plutôt à gauche, et même peut-être parfois plus à gauche que lors du précédent gouvernement.
Frédéric Savicky.
Là, il faudra voir concrètement les mesures qui seront annoncées concernant les réfugiés, les libertés publiques, la lutte contre les discriminations, etc.
Sur ce qu'a dit Emmanuel Macron. Bah, après, il faudra voir les actes.
Voilà. C'est un gouvernement effectivement qui est plutôt libéral et qui s'adresse à la droite. Quand on va chercher comme Premier ministre quelqu'un qui vient de la droite, ça veut dire qu'on prépare législative en essayant effectivement de à la fois capter non seulement des voix qui viennent de la droite, mais aussi des élus, des députés. Alors, ça se comprend d'un certain point de vue, parce que c'est en cohérence à la fois avec le programme de Macron sur les questions économiques et sociales, et puis c'est aussi là que sont les réserves, j'allais dire, de députés. Quand on regarde la situation politique à gauche, le gros aujourd'hui, ce sont les insoumis, le Parti Socialiste est réduit aux acquis. Voilà, donc la marge de progression, elle est effectivement du côté du centre-droit, de l'UDI, de l'aile, on va dire, plus sociale ou plus gaulliste de la droite des Républicains. Donc, je veux dire, les deux objectifs que je pointais tout à l'heure de ce gouvernement qui est préparer les législatives et puis préparer les politiques sont parfaitement cohérentes autour dans sa composition.
France Inter, le 18-20.
Et cette édition spéciale du Téléphone Sonne se poursuit. Nous dialoguons ensemble, amis auditeurs, sur le nouveau gouvernement dont la composition, vous le savez, a été connue en milieu d'après-midi. Les passations de pouvoir ont eu lieu dans la foulée et se poursuivent encore. Sur le plan des équilibres politiques ou de l'arc-en-ciel, comme on le disait dans la première partie, les nuances vont du sarkozysme à Nicolas Hulot, en passant par le hollandisme et le modem, plus des personnalités non politiques nommées pour leur expertise, par exemple à l'éducation nationale, à la culture ou au numérique. Voilà pour les grandes lignes. On a du temps pour entrer à nouveau dans les détails. Alors dites-nous, quelle est votre analyse, quelle est votre impression sur cette équipe gouvernementale, séduite, déçue ou autre. Vous avez la parole jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
J'accueille au standard Zacharie de Rennes.
Bonsoir.
Mais c'est toi, Zacharie ?
Oui.
Zacharie. Ah, Zacharie, 16 ans, n'a pas encore voté, mais adore la politique.
Non, oui.
Alors ?
Donc moi, je vous rappelle par rapport à ce gouvernement et à l'âge des ministres. Mmh. Avec les trois ministres d'État qui ont plus de 60 ans, il y a, à la rigueur, Gérald Darmanin, je voyais ça qu'à 34 ans, mais je disais qu'il a quand même été pour l'abrogation du mariage pour tous. Alors pour les mœurs, c'est pas très progressiste. Mmh. Et donc voilà, je suis assez déçu par ce rafraîchissement de la classe politique que Emmanuel Macron a quand même pas mal prôné pendant la campagne, et que ce gouvernement, justement, n'insuffle pas un élan de jeunisme.
Mmh. Toi, tu es déçu, rappelle-nous, tu as bien 16 ans, hein, t'as pas pris un an depuis le premier téléphone sonne où on s'est rencontrés. Tu espérais autre chose, Zacharie ? Allô ? Zacharie a disparu. Oui, Zacharie a disparu. Ben on va en rester là. La ligne, on a perdu la ligne. Donc oui, Frédéric Savicky, on vous retrouve. Rémi Lefebvre est à Lille. Thomas Legrand et Marion Lourd sont également là pour dialoguer avec vous dans ce téléphone sonne. Frédéric Savicky.
Bon, je me suis amusé tout à l'heure à calculer la moyenne d'âge des ministres. J'ai pas inclus les secrétaires d'État parce que pour l'instant la liste est incomplète. Donc sur les ministres, la moyenne d'âge est de 57 ans. C'est à peu près à un ou deux ans près la moyenne d'âge des gouvernements précédents. Donc, effectivement, là-dessus, Zacharie a raison. Alors, est-ce que l'âge est un indicateur d'ouverture aux idées nouvelles, etc. C'est pas sûr, parce que précisément dans sa question, il pointait que le plus jeune Gérald Darmanin a été à ses débuts directeur de campagne électorale à Tourcoing d'un député particulièrement virulent contre les homosexuels dont là, présentement, malheureusement, le nom m'échappe, mais qui avait été mis au banc d'ailleurs pour ses déclarations contre les homosexuels par
Christian Vanesse.
Christian Vanesse, exactement.
Il
n'est pas responsable, mais en tout cas, c'est effectivement quelqu'un qui n'est pas, on pourrait dire, très très gay friendly. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc l'âge n'est peut-être pas de ce point de vue-là un problème. En revanche, effectivement,
lui est plus
ouvert
sur la question.
Mais il ne voulait pas célébrer, d'après un vieux tweet qui est ressorti. Il ne voulait pas célébrer de mariage entre des personnes du même sexe.
Mais
ce qui, le jour de la journée de lutte contre l'homophobie, c'est spécial.
Il est clair que par rapport à l'image donnée par le choix du Premier ministre et du Président de la République, il y a là incontestablement effectivement un petit recul, à savoir maintenant si effectivement en soi la jeunesse est un signe de nouveauté et d'ouverture d'esprit. Il est peut-être un peu tôt.
Les vieux autour de cette table sont farouchement contre cette idée, évidemment.
Absolument.
Ça ne comprend pas Marion Lourd. Rémi Lefebvre, sur la jeunesse.
Oui, la politique obéit à un cursus honorum traditionnellement. Quand on est ministre en général dans la filière dite ascendante, on gravit un peu tous les échelons du local vers le national, et cette filière ascendante du cursus honorum n'a pas du tout disparu dans le gouvernement Macron, puisqu'on voit bien très bien que Gérard Collomb, François Bayrou, même s'il a été ministre de l'éducation avant, ou encore Richard Ferrand, etc., ou Le Drian, ont des profils quand même politiques assez classique, et donc du coup évidemment la position ministérielle vient sanctionner une carrière commencée localement assez tôt. Voilà, donc Macron n'a pas cassé cette logique. Alors
néanmoins, il y a des jeunes, et ça, je pense que c'est un argument intéressant par rapport à Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin, qui ont quand même commis une énorme transgression par rapport à leur parti. Je pense que leur horizon d'attente, c'était voilà, de vouloir être ministre. Alors Bruno Le Maire l'avait déjà été avant, mais je pense que quelqu'un comme Gérald Darmanin, bon, il ne cache pas son ambition ministérielle depuis des mois. Elle lui a échappé d'abord avec Sarkozy, puis avec Fillon, et là, très clairement, voilà, il veut, et pourquoi pas, aspirer aux responsabilités. Donc là, évidemment, il a eu un accélérateur. C'est-à-dire que Macron lui a proposé de monter dans le train partait, il l'a pris parce que peut-être que le train n'allait pas se représenter avant quelques années.
On retourne au standard. Qui est en ligne? On va me le dire tout de suite. Je suis en train de regarder mes deux écrans. Édouard, bonsoir Édouard, bienvenue.
Bonsoir. Merci à vous. Voilà, donc je suis exploitant agricole en Vendée. J'ai pris soin de regarder le nouveau gouvernement. On parle d'un gouvernement expérimenté, c'est vrai, hein, pour de nombreux aspects, la recherche, l'éducation, etc. etc. Ah, par contre, en agriculture, il est bien gentil, ce monsieur, mais il vient d'où? C'est le plus vieux, on ne sait pas d'où il vient. Est-ce que... Enfin, voilà, moi, j'ai voté Macron parce que je pense que c'est quelqu'un qui va nous faire avancer les choses. Mais là, il nous met un type, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'agriculteurs qui le suivent, quoi, malheureusement.
On est en train de, pendant que vous parlez, je suis en train de lire la dépêche qui décrit, enfin, qui fait le portrait du nouveau ministre. Restez en ligne, Frédéric Savicky.
Cet après-midi, quand j'ai découvert le nom de Jacques Mézard, que je ne connaissais pas, je me suis un petit peu penché sur son parcours. Effectivement, il est intéressant. Alors, pourquoi il a été nommé ministre avant d'être ministre de l'Agriculture? Parce que ce monsieur est membre du Parti Radical, mais il est surtout président du groupe Rassemblement démocratique et social européen du Sénat. Il va y avoir des élections très importantes au Sénat, un renouvellement au mois de septembre. Hein. Là, je parle sous contrôle de Thomas Legrand. Le Sénat, ça va être sans doute le lieu où il y aura paradoxalement le plus de députés de gauche par rapport à l'Assemblée nationale, si les élections législatives confirment un peu la tendance de la présidentielle. Et donc, ça sera très important pour Emmanuel Macron de pouvoir compter sur les sénateurs.
Deuxième loin de l'agriculture. Donc.
Ouais. Deuxième. Attendez, on en vient à l'agriculture. Alors, ce monsieur est quand même sénateur du Cantal. Le Cantal, c'est une région très agricole qui se trouve être par ailleurs la région d'origine de l'actuel secrétaire général de la FNSEA, Dominique Barrault. Alors, je ne sais pas si c'est complètement au hasard, mais ça peut éventuellement faciliter les relations avec la FNSEA. Et dernière chose, c'est quand même effectivement un élu plutôt rural. Et donc, évidemment, même s'il n'a pas eu de responsabilité, on pourrait dire, dans la gestion des dossiers de l'agriculture, peut-être a-t-il quand même une sensibilité, même si jusqu'à présent, c'est plutôt un spécialiste, disons, du droit des collectivités locales qu'il suit particulièrement bien. Donc, il est peut-être plus un défenseur de la ruralité pour l'instant qu'un défenseur de l'agriculture, voilà. En tout cas qu'un connaisseur des dossiers agricoles.
Merci Frédéric Savicky d'avoir travaillé à ce point le cas du ministre de l'Agriculture. Édouard, je voudrais vous lire quelques lignes de la dépêche AFP que nous avons sous les yeux. Monsieur Mézard a assuré qu'il était homme de caractère, mais aussi de concertation. Nos paysans, comme a dit le président de la République, sont un élément essentiel de la vie de la nation. Nous avons le devoir de les protéger, de les aider à se moderniser. Il est indispensable de réussir. Nous le ferons ensemble. Thomas Legrand vous répond, Édouard.
Oui, je
aussi.
Peux vous dire que les proches de Nicolas Hulot ont vite repéré ce monsieur Mézard, ont vite repéré qu'il était du même département que la secrétaire générale de la FNSEA, et ça les a un peu inquiétés. Je crois qu'ils font des recherches aussi, parce que la FNSEA et Nicolas Hulot, c'est pas tout à fait la même crèmerie.
Marion Lourd.
Alors, je ne sais pas si l'option a été réellement examinée, mais c'est vrai que nous, on avait des bruits de couloir pour le ministère de l'Agriculture, et on parlait carrément de nommer Christiane Lambert, qui est donc la patronne de la FNSEA, du principal syndicat agricole. Je ne sais pas si c'est avéré ou pas. En tout cas, effectivement, ce monsieur a l'air d'être plutôt porte-parole de la ruralité et des territoires que de l'agriculture. Un avocat qui défend les agriculteurs, ça peut marcher, mais c'est étonnant.
Et la présence, Édouard, de Nicolas Hulot au gouvernement, vous la prenez comment?
Je l'apprécie la personne, hein. Ça me fait toujours sourire parce que j'en pense à lui quand il est au fond de l'eau là sur ses bulles. Mais sinon, non, c'est quelqu'un en France qui, enfin, comme on en parle souvent, des progressistes, c'est pas de souci. Après, moi j'ai juste une grosse question, quoi. Pour moi, son gros défi, c'est Notre-Dame-des-Landes. Hein. Moi personnellement, je suis en Vendée. Hein. C'est-à-dire que si on laisse l'aéroport de Nantes en dessous, ça me convient. Hein. Si je me retrouve au Nord, ça me va tout à fait. Hein, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, quoi? Sincèrement, j'ai l'impression que c'est plus du Je vais être méchant, c'est presque populiste comme, comme nomination. Voilà.
Merci Edouard pour votre intervention sur l'agriculture, Émile Lefebvre.
Oh, pas grand chose à ajouter, je suis pas vraiment spécialiste.
Ça dit qui a fait le boulot là.
Voilà. Ça intéresse pas à l'agriculture, c'est pas bien ça.
Mais juste pour remarquer, je crois qu'il y a deux représentants du PRG dans ce gouvernement et je suis toujours très très stupéfait par la capacité de ce parti qui représente pas grand chose à obtenir des ministères quasiment autant que le MoDem, un de moins. Voilà, c'est alors pas évidemment de premier plan comme le MoDem, mais voilà, ça plaide pour l'idée que les partis sont incrustés et que c'est difficile de les extirper du jeu politique.
Mmh. Julien, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue. Ouais.
Merci de prendre mon intervention.
Je vous en prie.
Je vais essayer d'être rapide. Je voulais faire une remarque en trois points. La première, c'était un scoop, c'est-à-dire qu'il y a une promesse qui n'a pas été tenue dans ce gouvernement. C'est le 28 avril, Emmanuel Macron avait déclaré qu'il créerait un ministère des femmes, du droit des femmes plein et entier. Voilà, donc le ministère n'a pas été créé. La deuxième chose, c'était par rapport au... Ça va être cohérent, je pense. Vous allez voir. C'est par rapport à ce que vous appeliez les sachants. Je voudrais tempérer un peu l'expression. Je pense que c'est des gens, bien sûr, qui ont une très grande technicité, mais qui regardent un peu tous la société par le même bout de la lorgnette. Par exemple, on a, pour l'éducation, moi-même, je suis enseignant, hein, mais là, on a un directeur d'école de commerce. Pour l'Europe, une personne, je crois, qui est très pro-Europe libérale, quand on parle de réformer l'Europe. Et c'est pour le travail, on a une ancienne patronne de grande entreprise, proche du MEDEF. Donc je voulais m'adresser à Louis, votre premier auditeur, et dire qu'il faut faire attention, pour les législatives, il n'y a pas que le casting. Ce qui compte, c'est le projet, ce sont les idées. Et là, il faut aller chercher des indices. Par exemple, le Premier ministre est un ancien lobbyiste, c'est d'Areva. Donc quand on voit Nicolas Hulot, on se dit qu'il sort du lot, justement, mais il a quand même un Premier ministre qui est pro-nucléaire et qui a voté contre les lois de transition énergétique. Mmh. Il a voté contre les lois pour la transparence de la vie publique, contre les lois pour l'égalité homme-femme. Il s'est ouvertement prononcé pour la fin des 35 heures, de manière assez brutale, en disant que le détricotage, ce n'était pas assez. Et j'encourage tous ceux qui vont voter simplement dans un mois à seulement regarder les projets et les programmes. Mmh. Il y a des grandes problématiques comme l'Europe, l'écologie, comme le droit du travail. Et là, il y a des orientations. Moi, j'en vois deux grandes orientations, qui est de Macron, et une orientation alternative de gauche qui est défendue par la France Insoumise, mais pas seulement.
Vous avez évidemment le droit de dire ce que vous venez de dire, Julien, et d'appeler donc les auditeurs à voter pour la France Insoumise. C'est juste quelques éléments, et puis je vais donner la parole évidemment à tout le monde. Jean-Michel Blanquer n'est pas que le patron de l'ESSEC. Hein. Il a eu, Frédéric Savicky, une très longue carrière au ministère de l'Éducation nationale. Dont il a été numéro 2, il a été patron de ce qu'on appelle la DGESCO, enfin, c'est recteur aussi. Hein.
C'est quelqu'un qui à la base est universitaire, il est professeur de droit public, c'est un spécialiste de l'Amérique latine, des institutions et de la politique en Amérique latine sur laquelle il a une production scientifique tout à fait respectable. Ensuite, effectivement, il a commencé par un poste de recteur en Guyane et puis il est devenu le numéro 2 en fait, du ministère de l'Éducation nationale, ce qu'on appelle DGESCO, c'est en fait la direction de l'enseignement scolaire. Et sous le ministère de Luc Chatel. Et puis, il a été recteur à Créteil pendant plusieurs années, puis candidat, enfin, à la direction de Sciences Po Paris. Donc, le réduire à l'aspect c'est l'homme du business et d'école de commerce, c'est quelqu'un qui lui-même n'a jamais travaillé dans le monde de l'entreprise. Il travaille dans une école, à la direction d'une école depuis 3 ans, je crois, ou 3-4 ans. C'est un peu réducteur quand même. Mmh. C'est quelqu'un qui a écrit 2 livres sur la réforme scolaire. Il a mis en œuvre un certain nombre de politiques quand il était à la direction de l'enseignement scolaire et puis ensuite recteur en matière d'innovation pédagogique qui sont pas forcément inintéressants. Donc il est assez macro-compatible. Alors c'est sûr qu'il est plutôt du centre-droit. Il a fait ses rapports sous l'égide de l'Institut Montaigne, qui est pas réputé effectivement pour être ni social-démocrate et ni encore moins proche de la France insoumise. Et puis dernière chose également quand même sur la Muriel Pénicaud, qui est ministre du Travail, c'est quelqu'un qui a eu aussi une expérience de cabinet sous Martine Aubry dans les années 90. qui a travaillé à la fois dans le public et dans le privé. C'est pas non plus la figure, je dirais, complètement typique de la personne inféodée, disons, à la logique du business, du capital ou a fortiori du monde de la banque, par exemple. Alors c'est pas pour dédouaner, mais enfin, il faut quand même être un peu plus, rigoureux et pas trop réducteur quand on présente les profils des personnes.
Voilà, lui, comme d'autres au gouvernement, ont eu de très longues vies. Blanquer, c'est impossible. Enfin, vous l'avez fait, mais c'est très difficile à résumer en quelques mots. Marion Lourd.
Je voulais juste ajouter sur Muriel Pénicaud qu'elle a un parcours extrêmement mixte. Effectivement, elle a siégé au conseil d'administration d'entreprises, mais c'est souvent des entreprises publiques. Elle a été DRH de Danone. Vous disiez qu'elle a été effectivement au cabinet de Martine Aubry. Elle a aussi dirigé une mission locale. Donc, son parcours est assez mixte et ça explique peut-être aussi les réactions qui sont très diverses, à la fois saluées par le MEDEF, Force Ouvrière qui se dit...
Elle a fait l'INSEA,
l'Institut Européen d'Administration des Affaires. Ouais. Et elle est saluée à la fois par le MEDEF et par Force Ouvrière. Bon, on peut essayer d'attendre peut-être ce qui va... Exactement. Après, la CGT est très méfiante et on l'entend, mais elle a un parcours plus mixte que ce que vous disiez tout à l'heure.
Thomas Legrand.
Mais je voulais revenir sur les doutes de notre auditeur de Julien, parce que finalement, il a assez raison. On a ici un beau tableau. On y revient, mais ça fait maintenant 1h41 qu'on parle de tout ça. Nos auditeurs, en règle générale, trouvent que il y a un panel assez divers, étonnant, et ils se posent des questions sur la cohérence de tout ça. Et la cohérence, elle ne peut être donnée. Il peut y en avoir une. Hein. C'est compliqué à imaginer une cohérence entre Nicolas Hulot et Bruno Le Maire. C'est vrai, mais il peut y en avoir une. Elle ne tient qu'au discours du Premier ministre et du président. Et tant qu'on ne connaît pas la mayonnaise, c'est-à-dire l'éventuel compromis, et on n'a pas l'habitude de nouer des compromis en France, mais tant qu'on ne connaît pas le discours de compromis, on a beaucoup de mal à commenter. C'est pour ça que il faut attendre les législatives. Demain matin, évidemment, je ne vais pas faire de la pub pour la matinale, mais demain matin, on a le Premier ministre, donc on va lui demander...
Du mal à commenter.
Mais oui, j'ai du mal à commenter. Ah ouais. Alors, c'est vrai qu'on on est habitué en ce moment à commenter quand on ne sait pas. Hein, ça fait plusieurs semaines qu'on commente sans savoir, parce qu'on nous demande de commenter les ministères.
Donc maintenant, vous savez... Vous avez du mal à commenter.
Eh ben, je ne sais pas encore. C'est pas parce que
il y a une crise du commentaire. C'est ça que je veux savoir.
C'est-à-dire que je me refuse simplement avec des noms, avec des gens qui ont des histoires et qui ont des histoires contradictoires.
Comme ça,
à
Thomas,
dire.
Il attend de voir.
Non, mais à dire. Juger quelle politique, parce que là, je ne sais pas quelle politique ça peut donner. Ce gouvernement, je ne comprends pas quelle politique ça peut donner. Il y en a peut-être une. Édouard Philippe va nous la donner. J'espère aussi Monsieur Macron. Et en tout cas. C'est les Français qui décideront quelle politique sera menée aux législatives, parce que c'est quand même ça qui compte.
Il y avait une question dans la question de Julien. La première était celle du ministère du droit des femmes qu'avait promis Emmanuel Macron. Et là, nous avons un secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Beaucoup de questions par courrier électronique. Aucune femme sur les grands ministères. Nous dit-on, la parité macronienne est un trompe-l'œil. J'ai compris aujourd'hui, nous dit Sophie, qu'il y avait plusieurs façons de concevoir la parité. La distribution des places me semble quelque peu sexiste. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Marion Lourd? Et puis Rémi Lefebvre, il ne faut pas l'oublier, il est à Lille. Marion.
Les statistiques, on regarde les chiffres, 11 femmes sur 22 personnes, mais sur 16 ministres de plein exercice, c'est seulement 7 femmes. Une régalienne, Sylvie Goulard, qui est aux armées. Muriel Pénicaud est au travail. Elle pourrait avoir un poste très important, sauf que, on se demande quel va être réellement son périmètre. Est-ce que c'est elle qui va porter cette grande réforme du travail ou est-ce que ça va être aussi délégué en partie à Bruno Le Maire? Là, il risque d'y avoir une guerre de périmètre et c'est peut-être lui qui va gagner. Donc, en réalité, en tout cas, pour ce qu'on peut dire, en termes de statistiques, les femmes sont effectivement peu représentées.
Une anecdote sur la question des
Thomas
femmes.
Thomas Legrand puis Rémi Lefebvre.
Oui. Et quelqu'un de la matinale qui a reçu un coup de fil d'une personnalité de la culture, qui lui-même avait reçu un coup de fil d'Emmanuel Macron, lui demandant « Donne-moi 3 noms de femmes pour la culture ». Il cherchait des femmes, voilà. Donc, il y a aussi...
Il faut faire les fonds de tiroir pour trouver des femmes.
C'est ce qu'avait l'air de dire Emmanuel Macron.
Rémi Lefebvre, je suis sans voix.
Oui, sur la parité, bah c'est ce gouvernement est un peu à l'image des travaux qu'on a en sociologie politique sur la féminisation de la politique. Hein. La parité, elle est trompeuse. Il faut regarder les attributions des ministres et des élus femmes. Et là, on est tout à fait conforme aux observations qu'on fait souvent. C'est-à-dire que, ouais, certes, il y a une parité, mais quand on regarde les attributions, et bah, c'est pas forcément les plus importantes. Hein. Il faudrait regarder budgétairement la part de toutes les dépenses que vont assurer les ministres féminines. Et là, c'est assez net. On voit aussi que sur le quota professionnel de la politique, les femmes sont moins représentées, même s'il y en a. Donc au fond, la société civile, on va la chercher plus du côté des femmes parce que le quota professionnel de la politique est pris par les hommes. Voilà. Et sinon sur le ministère des femmes, peut-être voilà, c'est un peu étonnant ce qu'a dit Thomas Legrand tout à l'heure, puisque c'est vrai que le libéralisme culturel, c'est plutôt la marque de Macron, hein, libéralisme économique et libéralisme culturel. Et c'est vrai qu'on l'a assez peu entendu pendant la campagne là-dessus. Et là, il n'y a pas vraiment de priorité gouvernementale qui est affichée à travers ce thème.
Thomas. Oui, parce qu'il a théorisé le fait, alors qu'il est lui-même personnellement plutôt libéral sur les questions culturelles et sociétales, mais il a théorisé le fait qu'il ne fallait pas trop légiférer sur ces questions-là, que c'est la société, il fallait accompagner la société. Ouais. Et je voulais aussi préciser que sur les 19 000 candidatures pour être député ou candidat à la députation, seulement, je crois, au départ, 17% étaient des femmes. Donc,
j'ai une question qui est un peu différente, mais qui croise le sujet dont on est en train de parler. Marc nous dit la chose suivante, pardon. Monsieur Le Drian était, au dire de certains, un bon ministre des armées. Pourquoi le déplacer au Quai d'Orsay et le remplacer par Madame Goulard, qui, elle, est une élue européenne? Je ne saisis pas. Alors, nous dit Marc, la logique de cette opération.
Surtout qu'elle est Marion, pour sa Thomas. Bonne connaissance, oui, notamment des questions économiques, et elle se retrouve aux armées. Je ne sais pas quelle est sa connaissance en matière d'armée.
Comment expliquer ça, Thomas Legrand?
Je ne sais pas. Donc, j'ai le droit de ne pas savoir.
Mais oui, bien sûr, c'est la crise du commentaire. Frédéric Savicky.
On peut peut-être penser que Jean-Yves Le Drian en avait assez d'être à la défense depuis 5 ans, ou alors on peut aussi faire l'hypothèse qui n'est pas que pour un président de la République, dont c'est quand même un domaine régalien, d'avoir quelqu'un qui, depuis 5 ans, connaît très bien de fond en comble le milieu de l'armée, le milieu militaire, c'est peut-être un peu un contre-pouvoir, et faire le changement, alors peut-être pourquoi pour au profit de Sylvie Goulard, on voit bien qu'il y a des équilibres politiques à mener, et donc je pense aussi que pour le président, conserver Le Drian qui a une bonne image, c'était bien, mais le conserver à la défense, c'était pas forcément très judicieux.
Pas besoin d'un vice-président.
Pas besoin de quelqu'un qui connaît déjà toute la boutique et qui, effectivement, va dire du coup au président ce qu'il faut faire.
Rémi Lefebvre.
Oui, bah on entendait ces derniers jours que François Bayrou n'avait peut-être pas assez d'expérience internationale, n'avait pas assez bougé ces dernières années pour être ministre des Affaires étrangères. Du coup, il y a eu sans doute des jeux de vases communicants comme ça. Et puis, Le Drian s'est positionné sur les affaires étrangères. Il fallait trouver une place pour Sylvie Goulard du MoDem. Enfin voilà, c'est pas toujours très très rationnel, hein, évidemment, la composition d'un gouvernement. C'est un Rubik's Cube parfois assez compliqué. Et donc, du coup, on a parfois des questions comme ça, c'est bien, comme ça, ça stimule notre goût du commentaire.
Oui, qui est en crise, rappelons-le. Martine, bonsoir.
Juste chez moi.
Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir, bienvenue.
Voilà, j'ai deux questions. En fait, je m'interroge, j'ai pas entendu qui allait porter les secteurs de la famille, petite enfance, solidarité, jeunesse, et puis surtout la politique de la ville. Je suis un peu militante dans ce domaine-là. Mm-hmm. Et puis, plus largement, effectivement, comme vous le disiez, c'est un gouvernement de compétences. Moi, je ne vois pas d'affichage politique, notamment par rapport à la fracture sociale qui s'est révélée pendant les élections et qui me paraît vraiment être l'enjeu du quinquennat pour les 5 ans à venir. Alors, vous disiez qu'effectivement, on ne pouvait pas demander, les personnes de la société civile ne sont pas des politiques, mais il y a des gens de la société civile qui sont des militants et qui font de la politique. Voilà.
Bien reçu, Joël. On va essayer de vous répondre. Thomas Legrand, pour commencer.
Alors, les questions de la ville, c'est la
Martine, pardon.
La cohésion des territoires, par Richard Ferrand, et il est assez intéressant de noter qu'il n'y a pas de ministère de la ville. On a beaucoup reproché à Emmanuel Macron d'être le candidat et le président des villes, le président des métropoles, et qu'il négligeait un petit peu les territoires. Je pense que c'est pour ça qu'il a nommé Richard Ferrand, un de ses plus proches d'ailleurs, ministre de la cohésion des territoires, parce que il y a deux France, c'est un peu l'analyse qu'on peut faire après ces élections, deux France géographiquement, territorialement séparées, et c'est une mission que de les rassembler. Et voilà.
Et sur, la question de la jeunesse, Frédéric Savicky, ensuite je vous redonne la parole.
Traditionnellement, c'est la jeunesse et sport, mais là j'ai ministre des Sports. Alors, est-ce que c'est un oubli ou est-ce que effectivement c'est la domination officielle, ce qui supposerait ensuite de nommer un secrétariat d'État peut-être à la jeunesse ou pas.
Solidarité.
Alors, est-ce que c'est effectivement le ministre des Solidarités qui va s'en occuper sur l'aspect social, outre la ministre du Travail, Agnès Buzyn est nommée ministre des Solidarités et de la Santé. Et donc, c'est quelqu'un qui vient en fait plutôt du monde de la santé. C'est une prof de médecine qui était directrice de la Haute Autorité de Santé Publique, donc qui est plutôt sur le pôle médical. Donc, pas vraiment forcément, disons, que sur le pôle, je dirais, social, associatif. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de figure marquante.
Et sur la famille, et la petite enfance, on en est où? Martine, on regarde avec vous la liste des directions.
Direction de la famille, il n'y a pas de secrétaire d'État explicitement en charge de la famille.
On n'a pas encore les directions.
Marion Lourd, qui veut dire un mot?
Il faut quelqu'un pour chapeauter quand même la direction de la famille. Alors ça, effectivement, j'ai la liste du gouvernement sous les yeux.
À partir du moment où on décide de faire un gouvernement resserré, c'est-à-dire de uniquement 15 membres, c'est raté, il en a fait 18. Mais enfin, ça reste assez resserré. Généralement, quand on dit qu'on fait un gouvernement resserré, ça dépasse pas 20. Là, c'est 18. Et puis derrière, il y a une deuxième vague avec 30 secrétaires d'État ou ministres délégués. Ce n'est pas le cas. Il n'y a que 4 secrétaires d'État. Donc, c'est un gouvernement plutôt resserré. Alors, évidemment, toutes les directions de l'administration française ne sont pas chapeautées par un ministre avec le nom de la direction. Il va falloir voir sous quelle dénomination, sous quel ministère, par exemple, la petite enfance et la famille sont mis. Et effectivement, ça donne des informations politiques qu'on n'a pas encore.
Marion Lourd,
moi, ce qui me frappe un peu à première vue quand même, c'est qu'il y a l'air d'avoir une frontière assez étanche entre les ministères économiques et les ministères dits sociaux. Si on regarde Richard Ferrand, il est ministre de la cohésion des territoires. En clair, il n'a pas forcément la main sur le porte-monnaie. Agnès Buzyn, dont on parlait tout à l'heure, elle n'a pas la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle est à Gérard Darmanin, qui se trouve au budget. Donc il y a une vraie séparation, je trouve, une vraie frontière entre les ministères économiques et sociaux.
On a des questions qui vont dans le même sens. Où est passée donc la jeunesse? Est-elle avec les sports, avec l'éducation nationale? Nous demande Claire. Où est passée la solidarité? Où est passé le logement? On nous demande également, je cherche un prénom, je n'en trouve pas. Nicolas,
le logement est dans les territoires, avec M. Ferrand.
Où est passé le ministère du logement, de l'urbanisme, de la construction, de l'aménagement du territoire, bref, de l'architecture? Alors la question est un petit peu orientée, mais on voit, on voit l'idée. Rémi Lefebvre.
Oui, moi je suis alerté par une dénomination d'un ministère, c'est celui de Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Alors qu'est-ce que c'est l'action, ministre de l'Action Publique? Voilà, c'est une...
Vous avez une idée?
Une des subtilités, je sais pas.
Ouh là, la crise du commentaire frappe Lille également.
Écoutez, c'est une subtilité dont on va peut-être avoir, on aura peut-être des éclaircissements, mais il a voulu rehausser son ministère, mais Action Publique, qu'est-ce que c'est? On verra.
Marion
Lourd. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que Gérald Darmanin, en tout cas sur le papier, il est un peu le ministère des grands ciseaux, c'est-à-dire qu'il va devoir faire les économies sur le budget, il va devoir faire les économies sur la sécurité sociale et dans la fonction publique, parce que ce qui est intéressant, c'est que la fonction publique a parfois été sortie du ministère de Bercy et du ministère, elle a été parfois rattachée au travail par exemple ou à d'autres ministères justement plus sociaux, et là on se retrouve avec un ministère de la fonction publique dans Bercy et qui est tenu par le ministre des grands ciseaux, donc ça veut dire que son but, ça va être quand même de réduire le nombre de postes.
Alors, le ministre des grands ciseaux, donc Gérald Darmanin, c'est toujours opposé, notamment à François Fillon, et même à Bataillé quand il était porte-parole de Nicolas Sarkozy, contre les politiques plutôt d'austérité. Il est élu.
C'est
drôle. C'était le sécateur.
Oui, c'était le sécateur.
Donc c'est pas.
Il est beaucoup moins grand ciseau que son ministre.
Sur le papier, en tout cas.
On a de l'action. Pourquoi action? On a beaucoup reproché à l'action politique, de l'impuissance publique.
Oui, bah, donc enfin, peut-être qu'il a voulu le ministère de la parole, le ministère de l'action. On verra, mais ça en général, il y a souvent des intitulés un peu étranges qui au premier remaniement disparaissent.
Aussi, parce que
oui,
c'est
ministère
très,
des
c'est
armées, pas de la défense. Et là où je pense que on est bien au-delà du gadget, c'est ministère de l'Europe et des affaires étrangères.
Ça c'est quand même très important, non, Rémi Lefebvre?
Oui, oui, bien sûr. On l'a vu quand même avec la communication de Macron depuis quelques jours. Hein. Je pense que la question de la relance de la construction européenne va être un des aspects essentiels d'Emmanuel Macron. Il faut quand même rappeler aussi que Macron nous a promis une présidence jupitérienne. Donc toute la question qui va se poser dans les mois qui viennent, c'est la division du travail entre ce président qui va être un peu plus rare apparemment, et puis des ministres et des premiers ministres qui vont peut-être prendre le pas. Donc va-t-il se réserver plutôt la question européenne, la question des affaires étrangères. Oui. Hein. On va voir un petit peu comment va se dessiner cette présidence jupitérienne, si tant est que, évidemment, Macron la concrétiserait véritablement.
Oui, Frédéric Sabicki, puis Marc.
Dans la série des choses un peu, pour l'instant, énigmatiques, c'est qu'il y a évidemment Jean-Yves Le Drian qui est nommé ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, mais qu'il y a quand même aussi une ministre, en l'occurrence, Marielle de Sarnez, qui est chargée des affaires européennes. Alors, on imagine que c'est... bien sûr, elle est quand même ministre. Alors bon, c'est pas ministre délégué. Hein,
oui, mais ministre chargé. Ministre d'État.
Voilà. Mais bon, ça veut dire quand même que est-ce que c'est elle aura simplement à préparer les sommets européens, les relations dans l'Union européenne, ou est-ce qu'elle aura une mission diplomatique plus large, reste à voir, et ça peut être quand même une source de conflit.
On file dans le Lot-et-Garonne. Marc, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Desmérans, comment allez-vous?
Mais ça va magnifiquement bien, et vous?
Oh, on est sous un orage qui nous guette dramatiquement. Non, voilà, ma remarque, elle était très simple. C'est-à-dire qu'un ministre, en général, il y en a plein qui sont fait débarquer par leur administration. Mmh. Et alors, compte tenu de l'administration du quinquennat qui nous précède, comment ces ministres vont pouvoir gérer leur propre administration?
C'est une question massive et passionnante, Marc, que vous posez. Frédéric Savicki, Marion Lourd.
Une des raisons peut-être pour lesquelles on tourne dans la crise du commentaire, c'est qu'on se focalise trop sur les ministres et pas assez sur les ministères. Et de ce point de vue-là, cette question est très pertinente.
Moi,
parce que
je ne ressens pas la crise du commentaire.
Non, mais c'est une crise passagère. C'est une crise passagère comme l'orage.
C'est une tomasite. Il nous fait une legrandite aiguë. C'est pas de notre faute, là.
Alors, pourquoi c'est important de regarder ce qui se passe dans les ministères? Parce qu'il y a deux rouages essentiels du pouvoir concrètement au niveau gouvernemental, c'est les cabinets ministériels, et puis c'est évidemment les directions d'administration centrale, les directeurs d'administration centrale. Et de ce point de vue-là, effectivement, les déclarations qui ont été faites par le président de la République avant son élection étaient assez neuves, puisque effectivement, Emmanuel Macron entendait qui pratiquait une espèce de spoil system à la française. Alors, ça veut dire quoi, spoil system? C'est le système des dépouilles. Ça veut dire qu'on change fortement les titulaires de ces positions dans la fonction publique par des gens, des directeurs, par des gens qui vous sont politiquement fidèles. Donc, est-ce qu'il va le faire là? Alors, ça va être un peu compliqué parce que comme on a des ministres de droite, de gauche, du centre, est-ce que le président,
ça va être dur.
Voilà, est-ce que le président va imposer, on pourrait dire, ses hommes à lui dans les directions pour prendre les ministres en sandwich, en quelque sorte, entre son cabinet à lui et ses directions? C'est pas impossible. Ce qui est une manière pour lui de reprendre la main par rapport
c'est
à des ministres
pour
qui
ça
sont
tardés.
Et deuxième chose, la composition des cabinets. Alors, c'est très intéressant, la composition des cabinets, puisque ça a été un objet de conflit et de négociation avec Édouard Philippe, qui a finalement eu gain de cause. Mais quand on regarde effectivement la composition du cabinet du président de la République, on voit que c'est beaucoup de gens qui ont travaillé avec lui à Bercy avant. Et donc là, il y a une continuité très forte qui s'impose.
Marion Lourd, puis Rémi Lefebvre.
Moi, d'après les informations que j'avais sur le fameux spoil system, le système des dépouilles qui est prévu par Emmanuel Macron, il s'agissait surtout d'envoyer aux 250 postes clés de la grande administration une espèce de renouvellement de la lettre de mission pour s'assurer qu'ils étaient loyaux au programme d'Emmanuel Macron et qu'on ne se retrouve pas dans des situations comme il y a eu entre Arnaud Montebourg et le directeur du Trésor à Bercy qui était en bisbille permanente et qui n'arrivait pas à travailler
avec
ensemble avec Ramon Fernandez.
Rémi Lefebvre à Lille.
Oui, le spoil system, ce n'est pas simplement une revendication de Macron, puisque dans un rapport récent, Thierry Mandon et Mathias Fekel ont demandé ce système parce que selon eux, l'incapacité du gouvernement socialiste à mener des politiques a pour origine beaucoup la rétention d'informations et les résistances de l'administration. Le cas évidemment de Montebourg est archétypique. Hein, dans sa lutte avec Bercy, et bien évidemment Montebourg a perdu et c'est Moscovici qui l'a dépossédé de ses prérogatives. On sait quand même que Macron connaît très très bien ce système. Hein, il a quand même beaucoup participé à ce système. Il sait très bien comment comment ça marche. Ça sera très intéressant de voir un peu les directeurs de cabinet qui vont être nommés. On sait très très bien que l'Élysée va jouer un rôle important, notamment sur ces ministères de la société civile, de personnes qui sont assez peu expérimentées, parce que finalement, c'est bien de mettre quelqu'un de la société civile. Mais derrière, si c'est les services qui dirigent, évidemment, la volonté politique au départ, elle est broyée par la machine bureaucratique. Donc finalement, il faudra porter notre commentaire dans les mois qui viennent sur le fonctionnement des cabinets, parce qu'effectivement, c'est là, dans les cabinets et dans les administrations centrales, que se joue pour beaucoup la décision publique.
Et est-ce qu'il faudra commenter les commentaires, Thomas Legrand, à votre avis, ou pas?
Pour commenter tout ça, c'est vrai qu'il faut qu'on sache où sont les directions, qui est à la tête. Le diable est dans les détails.
Il nous reste 30 secondes. Rémi Lefebvre, Frédéric Savicky, votre ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédéric Vidal.
Écoutez, c'est une surprise, parce que c'est quelqu'un qui est très peu connu, qui est président d'université, l'Université de Nice, donc elle a une expérience de gestion, mais qui en même temps, jusqu'à présent, ne s'était pas particulièrement caractérisée par des prises de position publiques, donc on ne sait pas très très bien à quelle sauce nous allons être mangés, et de ce point de vue-là, nous sommes assez inquiets, parce qu'il y a certaines des propositions effectivement d'Emmanuel Macron qui vont dans le sens du démantèlement du statut des enseignants-chercheurs qui nous préoccupe.
Merci à tous, merci à vous amis auditeurs, et merci à vous Thomas Legrand, Marion Lourd, Frédéric Savicky, Rémi Lefebvre, il est 20h.